Bon, Michel Tarrain, donc 64 ans, hein, donc agriculteur pendant 38 ans sur la zone là, mais Notre-Dame-des-Landes. Je suis en fait la cinquième génération. La famille est arrivée en 1838, précisément sur ce secteur. Vous voyez, c'est pas d'hier. Et j'ai un fils qui a pris un peu la relève là dans le Côte du Gec où j'ai travaillé pendant 38 ans, quoi. Voilà.
Donc
Autrement,
agriculteur retraité
agriculteur
aujourd'hui.
retraité aujourd'hui, oui, mais toujours actif quand même, hein, bien sûr. Bon, moi j'ai fait partie un peu dans mon périple, hein, de paysans en lutte au départ, qui était donc un groupe de réflexion entre 66 et 72, qui a donné la création de paysans travailleurs, hein, qui était de 72 à 86. Et en 86, donc, avec le regroupement de toute une partie de gens qui quittaient la FNSEA, etc., on a recréé donc la Confédération paysanne aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce parcours syndical. Et bon, autrement, je fais partie d'un certain nombre d'associations. L'ADECA, membre fondateur de l'ADECA, avec le père de Sylvain, que vous avez vu tout à l'heure. Autrement, bon, je fais partie d'une association aussi depuis une quinzaine d'années qui s'appelle Solidarité Écologie. C'est une association qui est sur le canton de la Chapelle-sur-Erne, hein, un canton, voilà, uniquement. Donc, bon, ce n'est pas un parti politique, hein, c'est bien une association, hein, qui est, bon, on s'occupe de réfléchir et d'apporter des éléments sur un certain nombre de points. Par exemple, les déchets, par exemple. L'agriculture biologique, on a plusieurs thèmes, hein, de réflexion, tout ce qui est aussi le problème des constructions autour de Nantes, puisqu'on est dans la première ceinture nantaise, hein,
Donc le foncier.
voilà, et avec le foncier. Et puis, depuis le réveil, depuis 2000, très très engagé sur la lutte contre ce projet d'aéroport. Hein. Et on a fait donc en tant que cette association a fait un travail assez important sur les alternatives possibles, quoi. Nous qui avons étudié l'alternative de la piste perpendiculaire de Nantes et tout.
L'actuelle piste,
voilà,
enfin,
voilà.
L'actuel aéroport.
Voilà, c'est ça, oui.
D'accord.
Donc
je reviens. Donc ça, le projet d'aéroport, c'est les années 70.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe là? Comment vous comment vous l'apprenez?
En 70, ben alors je
quelles
vais vous
sont les
dire.
réactions?
Moi, j'ai eu un document qui s'appelait c'est un document de l'OREAM, hein, à l'époque. Premier document qui est sorti où on a entendu parler d'un projet d'aéroport, c'est en 1963. En 67, les quatre maires des quatre communes concernées géographiquement par le projet étaient convoqués par le préfet de l'époque, en 67, pour leur expliquer qu'il y avait un projet d'aéroport sur leur commune, sur leur territoire. En 72, il y a eu des réunions beaucoup plus précises qui ont été faites par la préfecture et qui a mis en place la zone d'aménagement différé, la ZAD. Hein, pour geler les terrains sur l'aéroport. Donc la ZAD est partie de 74, a été mise en place en 1974, pour 7 ans, hein, puisque en 75, on devait commencer les travaux. Enfin bon, le calendrier était déjà un peu dépassé, comme il y est aujourd'hui, mais voilà, c'était l'époque, c'était les annonces, hein. En 85, l'aéroport devait ouvrir avec 5 millions de passagers. Enfin, vous voyez, c'était les grandes. Voilà. Donc un aéroport intercontinental permettant aux Concorde de partir du bord de mer, mais permettant aussi une grande plateforme pour faire du fret. Hein. C'était la porte de l'Europe sur les États-Unis pour le fret, quoi. C'était pas n'importe quoi. Bon, nous, on était assez sceptiques. La première chose, c'est qu'on voyait surtout nos exploitations qui allaient être gâchées. Et puis, on était très. C'est pour ça que la DECA a été mise en place à ce moment-là et lutter contre ce projet en tant qu'agriculteur, quoi. Et puis, bon, ben, les années ont passé. 7 ans après, la ZAD était mise en place pour 7 ans. Donc, elle a été reconduite comme la loi le prévoit cette année supplémentaire, ce qui nous a amené en 88. Et en 88, le département a perdu son droit de préemption, hein, puisque ce n'était pas renouvelable pour 7 ans, étant donné que les travaux n'étaient pas commencés. Et là, le conseil général et le pouvoir, en fait, se sont arrangés avec les maires des communes encore concernées, les quatre maires, là, pour obtenir des droits de préemption communaux, si on veut. Hein. Enfin, et c'est ce qui s'est fait. Et en 2005, nous, les associations, on a fait arrêter le processus, quoi, puisque les maires ont qui avaient été réélus, hein, les conseils municipaux réélus, sont devenus opposés au projet d'aéroport et donc ont retiré le droit de préemption au conseil général. Voilà, le conseil général n'a pratiquement pas accès, acheté de terre depuis 2005. Quoi. Voilà comment, un peu l'histoire.
Comment les gens réagissent en... dans vos années, les années 60, 70 ?
Ah ben les gens, alors localement, les gens étaient contre. Hein. Ça, c'est, bon, à part quelques-uns peut-être, mais les gens étaient à contre, surtout les agriculteurs, quoi, hein, ça c'est clair. Mais on restait un peu entre nous, hein, ça c'est évident. Après, en 2000, quand le projet s'est réveillé, il y a eu le débat public. Et là, on a commencé à voir des gens extérieurs venir nous rejoindre dans le cadre du débat public. Hein. Et trouvant que bon, c'était pas la peine de réveiller ce dossier parce qu'il était dépassé aujourd'hui, quoi. Hein. Déjà en 2003, hein, on voyait le prix du pétrole qui allait augmenter, etc., etc. Bien sûr, les porteurs du projet, eux, nous disaient mais non, 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 et on peut voir dans l'étude qu'ils ont fait pour le décret d'utilité publique. Hein. Eh bien, dans cette étude, bon, tout est très positif, quoi. On va encore atteindre les 9 millions de passagers, on va dépasser... Enfin bon, c'est impossible de garder Nantes-Atlantique où il se trouve parce que ça va être insupportable au niveau des riverains, enfin, etc., etc., quoi. Et là, il y a des gens qui nous ont rejoints, pas mal. Et le deuxième élargissement s'est fait au moment de l'enquête d'utilité publique. Hein. Voilà. 82% des participations, enfin des propositions qui ont été faites pour des alternatives, c'est là que c'est intéressant, parce qu'on avait vraiment travaillé pour faire des propositions alternatives, etc. Pendant le débat public, elles ont complètement été rejetées. On a discuté que, ils nous ont proposé que Notre-Dame-des-Landes. Hors de question d'aborder les alternatives. Bon, c'est une première chose. Pendant l'enquête d'utilité publique, ça a été la même chose. Et même s'il y a eu 82%, je vous dis, des contributions opposées au projet, et sept enquêteurs, dont deux ont démissionné, hein, c'est quand même incroyable, parce que c'est pas courant quand même, hein, eh bien, le projet est quand même d'utilité publique. Alors on voit la démocratie, là, et là, ça a renforcé, je pense, considérablement le soutien des gens extérieurs, quoi. Et puis on a eu en 2009 le camp climat, hein, camp climat international qui a été fait donc sur les terres de Notre-Dame-des-Landes, qui a permis une ouverture là encore très importante. Mais et bah, les journées d'été de 2011, hein, 15 000 personnes, voilà, avec un éclatement là, disons. International, je crois que je peux dire le terme, avec des délégations russes, délégations anglaises, délégations allemandes, délégations, enfin bon, on avait pas mal de délégations, des délégations africaines aussi qui étaient là, donc c'est par rapport au grand projet inutile et décidé non démocratiquement, etc., quoi.
Il y a quelque chose qui ressemble au Larzac.
Alors c'est normal, c'est plus que normal, parce que je pense que bon, les luttes se ressemblent un peu, voilà. Mais oui, le Larzac, ça a été quelque chose de très fort. On l'a connu, nous, très précisément à sa naissance, hein, enfin pas à sa naissance, du moins, quand les 103 paysans du Larzac luttaient contre leur projet local aussi, hein, parce que nous, c'est un projet local, c'était comme ça à l'époque, quoi. On avait un paysan Loire-Atlantique qui s'appelait Bernard Lombert et qui a donc permis, je pense, et les copains du Larzac le reconnaissent, un élargissement de leur combat, hein, en ouvrant syndicalement et politiquement le débat. Et on est nombreux en Loire-Atlantique, hein, et aujourd'hui il y a un film de plus, hein, mais c'est quand même un film qui est sorti sur le Larzac qui le démontre bien, quoi. Et donc, mais nous, on était déjà dans la bagarre de Notre-Dame-des-Landes à cette époque-là, quoi. Vous comprenez les choses.
Sur une histoire foncière.
Alors, sur une histoire foncière, on retrouve toujours un peu la même chose sur l'histoire foncière. C'est la base des choses, parce que bien, si on veut produire de l'aliment, si on veut travailler, nous les agriculteurs, notre outil de travail, c'est bien la terre. Donc ça, c'est normal, et c'est beaucoup les paysans qui mènent ce combat-là. Mais on voit l'élargissement. L'élargissement du Larzac, c'était bon, antimilitariste. Hein, c'était, voilà. Quand on a vu sur le Larzac ce qu'on appelait à l'époque le monde hippie arriver, c'était pas facile à gérer, vous le voyez dans le film. Ben, on vit un peu les mêmes choses aujourd'hui ici. Hein, c'est pas un monde hippie, mais c'est des jeunes qui se posent énormément de questions. Puis alors là, moi, je les rejoins totalement. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se pose des questions sur l'avenir. L'avenir est à construire. Il est pas, faut pas tout voir noir. Hein. Je crois qu'il faut construire, mais pour construire, il faut critiquer ce qui existe. Il faut avancer, quoi. Et là, on a affaire à des gens qui viennent nous soutenir aussi. Et c'est une similitude avec le Larzac. Ça, c'est sûr, quoi. Alors après, bon, il faut faire prendre la mayonnaise, hein, comme on dit. Et ça, je pense que on est à le faire, quoi. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Je vous dis, les journées du camp climat de 2009, ce qui s'est passé dans les journées de 2011, et la tracteur vélo sur Paris nous ont apporté énormément de rapprochement, et je pense que ça fonctionne.
Finalement, d'une locale, ça nous tombe dessus, vous n'avez pas choisi, voilà, il y a ce projet d'aéroports sur vos terres. Bon, vous nous avez dit déjà qu'il y avait ce ferment militant localement, mais comment on élargit une lutte comme celle-là politiquement?
Ben, on l'élargit, je pense qu'on a eu le temps de l'élargir, hein, parce que depuis le temps que c'est démarré. Au départ, oui, évidemment, les responsables politiques étaient pour, puisqu'ils mettaient le projet en place. Localement, les gens étaient très suivistes, hein, au niveau des conseils municipaux, etc. On comprend bien les agriculteurs, mais on nous l'impose. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'État? Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Donc, et puis après tout, bon, c'est peut-être le développement, hein, des emplois à la clé, voilà. Et puis, je pense qu'il y a deux choses qui ont fait avancer. Hein. C'est la première, faut pas avoir peur de le dire, moi je le dis, notre détermination, d'une part, de toujours être opposé à ce projet, d'avoir fait des propositions alternatives, constructives, hein, en plus, il faut le dire un peu, l'évolution aidant un peu aussi les choses, hein, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que cette évolution de toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus, ça commence à freiner un peu, hein, par un tas d'éléments. Et tout ça conjugué, on fait que les politiques ont commencé à se poser des questions aussi. Hein, et on a réussi localement, d'abord au niveau des conseils municipaux, à faire évoluer les choses. Hein, et puis dans certains milieux, dans certains partis politiques, il y a eu aussi des choses qui ont avancé. Et ça a pu donner la mise en place d'un collectif d'élus opposés au projet d'aéroport, enfin doutant d'abord, hein, se disait collectif d'élus doutant de la pertinence du projet. Bon, c'est déjà bien quand on arrive à douter, c'est qu'on peut se poser des questions pour la suite. Donc il a été mis en place en 2009 et là ils ne doutent plus aujourd'hui, ils sont vraiment opposés. Ça regroupe un peu plus de 1000 élus aujourd'hui à travers la France. C'est quand même pas mal, dont plus de 500 en Loire-Atlantique. Hein. C'est déjà ça, quoi. Hein. Et qui viennent de faire une étude que nous, les associations, on voulait faire depuis très longtemps. Mais il fallait d'abord trouver un cabinet indépendant. Il fallait trouver aussi les finances, hein, parce que ça dépasse les 20 000 euros. Et ce comité d'élus opposé au projet a fait faire cette étude qui aujourd'hui est pour nous extrêmement importante, parce qu'elle vient appuyer tout ce qu'on a dénoncé, tout ce qu'on a mis en évidence, hein, en faisant nos propositions alternatives. Hein. Non seulement c'est inacceptable au niveau de la dégradation de la biodiversité et de l'agriculture, que ce n'est plus un outil qui va permettre de développer énormément. On a assez de Nantes Atlantique actuellement. Et puis la troisième chose, c'est quand même au niveau financier, ça devient inacceptable, quoi. Donc tout est démontré dans cette étude, quoi. Et voilà, je pense que politiquement, il y a, comme dans un certain nombre de luttes, des gens qui nous rejoignent. Et pour moi, c'est plus qu'important, quoi, pour la suite du combat. Et on l'a vu à Paris, on a eu quand même pas mal d'élus qui sont montés à Paris pour la journée à suite de la tracto vélo. On a été reçus aussi à toutes les étapes qu'on a fait pendant ces 6 jours par des élus aussi, hein, dans chaque commune, etc. Je crois qu'il y a une prise de conscience du monde politique aujourd'hui qu'on peut faire autrement. Et surtout utiliser l'existant, améliorer l'existant. C'est très important. Et d'un niveau politique, il y a une prise de conscience très importante là-dessus. C'est pendant notre périple, par exemple, de la tracto-vélo, on a rencontré des gens opposés à la LGV Le Mans-Rennes, quoi. Alors on peut se dire, bah, pourtant, TGV entre Le Mans-Rennes, c'est pratiquement indispensable sur une distance comme ça, ouvrir la Bretagne, etc., quoi. Et bien là encore, il y a des militants, mais des élus aussi, hein, qui ont fait des études très précises et qui ont proposé des alternatives. Hein, en se disant, mais cette ligne LGV, là, c'est 4000 hectares qui disparaissent. C'est quand même pas rien, 4000 hectares, hein, puisqu'on recrée une ligne totalement nouvelle. Pour gagner 32 minutes, bah, c'est vrai que c'est considérable, 32 minutes, c'est vrai que c'est quand même bien si on peut gagner 32 minutes, quoi. Par contre, quand on fait l'étude précise sur les alternatives possibles, en reprenant les lignes existantes, en les améliorant, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gares où il faudrait améliorer parce que voilà, pour faire circuler plus vite, etc. En prenant du matériel plus adapté roulant, hein, sur ces lignes-là, on ne gagnera plus que 11 minutes par rapport au projet de la LGV. Vous vous rendez compte? Alors le gâchis, 3 milliards d'euros d'investissement, 4000 hectares qui partent en poussière, de nombreuses communes qui sont coupé, parce qu'un TGV, ça coupe énormément, hein, y a pas, c'est, voilà. Et puis, pour gagner 11 minutes, c'est, or que les alternatives, hein, il parlait de 800 millions d'euros, donc c'est quand même pas 3 milliards, quoi. Là, ça fait réfléchir, ça veut dire que le citoyen a quand même des moyens aujourd'hui de faire des propositions, et il y a des élus qui y adhèrent, quoi. Donc c'est important pour moi, je pense.
Et qu'est-ce que ça veut dire là, pour vous? Pas comme vous dites ça, ces deux exemples, avec des alternatives qui ont été travaillées, même financièrement, hein, des choses relativement intéressantes par rapport aux sommes avancées sur les projets en cours.
Voilà. Hein. Pour moi, je pense que personne ne peut être insensible à l'économie et à ce que ça apporte le maximum, au maximum des citoyens, quoi. Moi, je reprends le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On a un aéroport à Nantes-Atlantique, qui est un aéroport international, 47 destinations, qui n'est même pas au tiers de sa capacité, qu'on peut améliorer énormément. Dans tous les sens, hein, on peut l'améliorer énormément. On peut l'améliorer énormément pour, après tout, si il y avait une augmentation du trafic. Hein, on n'est pas rendu au bout des bouts. Hein. Quand on analyse à Genève, on a le même aéroport, on a 12 millions de passagers. Ça fonctionne, hein, c'est bon. Et ce que je pense, c'est que ces alternatives-là, elles sont de poids. Elles permettront aussi, au lieu de refaire, comme je disais tout à l'heure, des LGV qui vont très très vite, là, etc., et qui n'arrêtent plus dans les gares, et qui n'arrêtent plus... est-ce que c'est ça, faire en sorte que 15% peut-être de la population bénéficie de ça quotidiennement ou du moins chaque année, et puis que pendant ce temps-là, 80% de la population n'arrive plus à se déplacer pour faire des trajets courts tous les matins et tous les soirs. Scolaires, les gens qui vont travailler à 25 km ou à 30 km de leur lieu et puis qui ne peuvent plus prendre le train parce qu'on a fermé la ligne ou parce que le train ne fonctionne plus ou parce que, bon, c'est pas possible, quoi. Je pense qu'il faut regarder les choses. Et ça fait prendre conscience à des politiques qui nous rejoignent aujourd'hui. Mais le problème posé, il est, à mon avis, clair, c'est que entre les porteurs de projets, de tous ces projets-là, et les citoyens qui essaient, au niveau des associations, au niveau des partis politiques aussi, parce qu'il y en a, de faire des propositions alternatives, il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est inacceptable. Je pense que imposer un projet tel que l'aéroport, par exemple, ou une LGV ou autre, uniquement par le biais de débats publics qui sont toujours tronqués, Enquête d'utilité publique, on sait toujours, mais il pourrait y avoir 90%, là on a 82%, hein, pourrait y avoir 99%, on sait que de toute façon ça aboutira à l'utilité publique, parce que voilà, ça c'est complètement antidémocratique. Or que sur le terrain, il y a des associations, il y a des gens, il y a des élus, il y a des simples citoyens qui font un tas de propositions, mais on ne peut pas en discuter. C'est parce qu'il n'y a pas la possibilité de se rencontrer, quoi, de discuter. Et ça, je pense que ce verrou-là, il faut le faire sauter, quoi. Il faut le faire sauter. Alors, quand on réclame à Jean Marquero de pouvoir échanger, on n'a jamais de réponse, hein, ça c'est clair, quoi. C'est acté, c'est décidé. Pour lui, démocratiquement, je répète, parce qu'il y a eu, un débat et parce qu'il y a eu... c'est faux. Enfin, c'est faux. Oui, c'est dans la Constitution, je sais, mais on n'en est plus là aujourd'hui. Hein. C'est, faut regarder les choses en face, quoi.
Vous pensez que c'est archaïque également sur le plan démocratique ?
Ah oui, je pense que je pense que mais je pense qu'il est archaïque au plan démocratique. Ça c'est sûr, quoi.
Et pourquoi, à votre avis, Jean-Marc Ayrault et d'autres d'ailleurs persistent dans cette ligne, dans ce projet ? Parce que j'imagine qu'en 2000. De voir rejaillir comme ça, vous avez quand même dû être surpris. Il y a eu Rio 92 entre-temps,
oui,
le développement durable,
oui,
le problème climatique, énergétique, tout est archi connu, rebattu, débattu peut-être.
Alors ce qui est surprenant, c'est que Jean-Marc Ayrault, mais comme plein d'autres, hein, ils sont tout à fait OK avec nous sur Rio, ils sont tout à fait OK avec nous avec... respecter la biodiversité, ils sont d'accord avec nous, respecter les terres agricoles, parce que ça, il en est de plus en plus question quand même, hein, c'est clair. Il y a des grands colloques qui se font, des grandes discussions, à Angers encore il n'y a pas très longtemps, tous ces élus y sont et signent trois fois dans le bas de la page. Hein. Et ben, nous, ça suffit les signatures dans le bas des pages sur les déclarations, hein, qui font qu'on ne prend pas en compte les réels problèmes. Alors, bien sûr, sur un certain nombre de choses, ils ne freinent pas, mais sur des domaines... Alors, ce qui veut dire que chaque élu... Alors, quand on voit à Bordeaux, le grand contournement de Bordeaux, ou quand on voit ce qui a été abandonné depuis, le circuit F1 à Paris, chaque élu, grand élu, a son dada, là, a sa... Alors, ils sont d'accord avec tout l'ensemble, sauf que... pour en revenir chez nous, l'aéroport de Notre-Dame, on ne peut pas y toucher, quoi. Il a été décidé avant, il était décidé avant le Grenelle. Comment ça s'est passé pendant le Grenelle, hein, il était condamné, hein, cet aéroport. Hein. Les 7 grandes associations nationales qui participaient au Grenelle et le Grenelle avaient décidé qu'il n'y aurait pas de nouvelles plateformes aéroportuaires en France. On en a déjà 147 chez nous, c'est quand même pas mal. Les Allemands en ont 49, les Anglais 37, mais ce sont des pays sous-développés. Mais nous, au moins, on est développés. 147, non, 148e, voilà. Pourquoi pas ? C'est le 15e dans les deux régions, Bretagne-Pays de Loire. On a 14 aéroports quand même. Hein. On va vous dire, ils ne sont pas tous rentables, donc il faut en faire un gros. Ouais, ça, c'est le problème des grandes surfaces. Vous savez ce que ça veut donner. Tous les petits magasins se sont cassés la gueule parce que les grandes surfaces ont été établies. Mais on en revient...
On va fermer les autres.
Voilà, c'est ça. Bon, on ne le dit pas, mais bon, c'est bon. Mais en revenir à Jean-Marc Ayrault, oui, il tient plus que ça. Peut-être qu'il y a autre chose derrière, je ne sais pas. Jean-Marc Ayrault a fait des très belles choses sur Nantes. Il était... Moi, ce qu'on m'a dit, hein, assez contraignant par rapport aux investissements, disant par exemple sur le tramway de Nantes, etc. Il y a le tramway, mais je ne veux pas que vous dépassez financièrement ce qui est prévu, etc. Et puis, c'est son rôle aussi de maire, et je pense que c'était intéressant de le faire. Mais tout en promettant que, vous savez, si vous êtes sage là-dessus, il y a après le grand hôpital de Nantes qu'on va faire, il y a le grand aéroport du Grand Ouest, c'est toujours grand, 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 quoi. Alors, les lobbies, le BTP, tout ça, marche en doute, quoi. Alors, ça ne doit pas être facile pour lui de revenir en arrière par rapport aux promesses faites. Ça, c'est une chose sans doute. Et puis, le deuxième, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de politiques qui sont dans la politique depuis 30 ans, 40 ans, hein, on connaît tout ça, faudrait qu'ils passent un peu la main quand même de temps en temps, quoi. Parce que je crois qu'ils vivent encore un peu avec leur temps, quoi. Et les temps changent aujourd'hui. Et je pense qu'il faudrait laisser la main pour qu'on puisse avancer justement dans le sens du temps d'aujourd'hui, quoi. Et maintenir des projets comme ça, pour moi, ça veut dire qu'on est dépassé. Enfin, voilà, comme le projet d'ailleurs.
Vous avez des discussions là dans la coordination, j'imagine de l'ordre démocratique aussi, et vous élargissez aussi certainement les débats au quotidien.
Ah ben oui, ça s'élargit les débats au quotidien. Et c'est très riche parce que dans la coordination, il y a à la fois des associations, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, il y a au moins les trois. Bon, tout ça c'est des militants, mais il y a 44 associations, syndicats et partis politiques actuellement. C'est très 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 riche, ça c'est vrai. Je pense que ça, justement, ça devrait amener un certain nombre de politiques à réfléchir, parce que c'est quand même le monde des citoyens qui s'exprime par le biais des associations, des syndicats ou des petits partis qui n'ont pas droit, eux, pratiquement, de mettre leurs pieds en haut, puisque avec notre manière de faire les élections. C'est difficile pour un petit parti d'y arriver, quoi, de s'exprimer. Donc voilà. Maintenant, ben, moi je dis qu'il faut garder confiance parce qu'on continue de pousser le bouchon quand même, hein, avec les actions qu'on fait, avec cette prise de conscience. Quand on voit, il y a un an, quelqu'un nous aurait dit, tiens, ben, les pays arabes, il y en a qui vont. Dictatures arabes qui vont disparaître dans l'année. Là, on y pense depuis tellement longtemps que personne n'y aurait cru, hein. Il y a des choses quand même qui avancent énormément à travers le monde aujourd'hui. Je ne dis pas que ça y est, le monde va mieux fonctionner, que tout le monde va être. Voilà. Parce que ça veut dire que quand on met quelque chose par terre, il faut reconstruire. Et ça, on sait que ce n'est pas évident. Mais c'est quand même une marche en avant qui est absolument intéressante. Et moi, je dis, bon, ben, c'est vu de l'extérieur par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Mais chez nous, on vit les mêmes choses quand même. Je pense que notre jeunesse est très inquiète sur son avenir. Il y a plein de gens qui se posent des questions. Et les questions, ce n'est pas de se lamenter en disant le monde est foutu. Etc., etc. Non, c'est justement de travailler comme dans la coordination, là, hein. Qui lutte contre un projet, mais qui est un projet emblématique où on retrouve tous les points de la remise en cause de cette société qu'on voudrait voir changer.
Voilà, c'est ça. C'est plus aussi
Ah
que
oui,
vous êtes arrivé quasiment à
ah,
un
c'est
changement de société.
ah, c'est
C'est-à-dire
ça. Ben, c'est
une
ça,
lutte
mais
contre un
depuis.
projet, vous êtes arrivé
Voilà,
aussi
moi,
à cet
ouais.
élargissement-là, d'avoir une autre vision sur la société,
Ouais.
la façon dont
Ouais.
les choix politiques, enfin démocratiques, doivent se
Se
faire
faire,
aussi.
oui. Ouais.
La vision n'est pas
Ouais.
la même,
Ouais. Moi, je
etc.
dirais,
Vous êtes arrivé là.
moi, depuis longtemps, on est nous, les militants, il y a longtemps qu'on a cette vision-là, quoi. Mais moi, je sens un peu que les choses mûrissent, quoi. Ça c'est vrai, c'est plus qu'important, quoi.
Alors, comment ça se passe pour, par contre, des agriculteurs qui étaient là au départ, qui sont toujours menacés au niveau de leurs terres, de leurs exploitations, hein, d'expropriation, hein, c'est quand même ça en clair. Il y a la dimension politique, mais on en revient
Le
toujours à
concret.
quelque chose d'évident et de très concret pour eux, très palpable pour leur avenir en plus.
Oui.
Comment ça se passe là avec
Ah
ces
ben,
avancées dans la lutte
comment ça se passe? Là encore, je dirais, ça se passe un peu comme dans toutes les luttes, hein. Au Larzac, c'était ressenti comme ça, hein. Les paysans, bon, ben, la lutte a été gagnée, tous les paysans étaient contents, mais il y en a qui se posaient des questions aussi, hein. C'était pas la cohésion complète et tout. Et moi, je peux comprendre. Je crois que d'abord, faut respecter chaque citoyen ou chaque individu, parce que si on ne respecte pas, ça veut dire qu'on ne respecte pas la démocratie. Moi, c'est une base fondamentale, ça. Mais par contre, je pense qu'il faut permettre à chaque, enfin, si on parle des agriculteurs, à chaque agriculteur, vraiment de pouvoir accéder à l'information, vraiment l'information complète sur ce dossier. De se faire vraiment une idée par rapport à tout ce qu'est ce dossier. Ensuite, permettre ben, de faire en sorte que on peut se regrouper. Alors, il existe, il y a l'ADECA, l'Association pour les agriculteurs. Ça, c'est la première pour les agriculteurs. Ben, certains sont syndiqués dans les syndicats agricoles. Hein. Par exemple, à la Confédération paysanne ou à la FDSEA ou à la coordination rurale. Bon, alors par là aussi, ça permet d'informer, les gens se retrouvent moins seuls. Par contre, sur l'exploitation même, ben oui, c'est le dernier, c'est la famille, c'est l'agriculteur qui, lui, se trouve seul à prendre sa décision après toutes les informations, tout ce qu'on lui a donné, quoi. Et là, je crois qu'il faut être solide, quoi. Alors, à nous, à l'extérieur, d'apporter tout ce qu'on peut pour aider collectivement, quoi. Disant, bon, tant que on n'est pas venu vous expulser, parce que moi je serai encore en place, je ne bougerai pas avant qu'on vienne m'expulser. Faudrait qu'on vienne me charger dans un camion. Voilà, je crois qu'il faut aller au bout des bouts, quoi. Et après, bon, ben, c'est vrai, faut se construire, mais là aussi, il faut compter sur la solidarité. Je pense que la solidarité peut apporter beaucoup de choses pour reconstruire, repartir, si jamais ça pouvait se faire. Mais tout le monde n'en est pas à ce niveau-là, quoi.
Est-ce que la lutte, comme dans le Larzac, elle reste d'abord, enfin les pilotes dans l'avion, pour aller vite, ça reste les paysans de Notre-Dame-des-Landes et du secteur?
Il faut que ce soit ça. Je pense que c'est très important qu'il faut que ce soit les gens concernés directement, pas que les agriculteurs, parce qu'il n'y a pas que des agriculteurs sur le secteur. Nous, les agriculteurs, concernés par plusieurs choses, c'est l'outil de travail, c'est la maison d'habitation, c'est le lieu de vie, hein, c'est le salaire, enfin c'est le revenu au bout du mois, c'est tout ça. Mais il y a aussi les habitants, il y a des gens qui habitent sur cette zone-là, qui ne sont pas agriculteurs, qui ont toujours été là, qui ont leur maison, qui ont leur habitude, qui ne voient pas pourquoi ils iraient ailleurs. Tant qu'on a dénoncé que ce dossier-là, ce projet-là n'est pas d'utilité publique. Nous, on le répète, il n'est pas d'utilité publique. Tant qu'on ne voit pas pourquoi on partirait. Ça, c'est notre force, je pense. Et après, c'est la solidarité, c'est voilà. Pour les gens qui viennent aujourd'hui s'installer sur la ZAD, hein, parce qu'il y a des installations, on va les en voir tout à l'heure, sur la ZAD, je pense qu'il faut que ces installations-là, elles soient vraiment pour une durée dans le temps. Hein. Et moi, je les mets à même niveau que ceux qui sont installés depuis 40 ans, ou ceux comme Sylvain ou moi, on peut dire, nos familles sont là depuis 1838 ou 1840, hein, voilà. Qu'on est arrivé hier ou qu'on est arrivé dans le temps, on est tous là, et c'est à ces gens-là de garder la main sur la lutte. Après, toutes les associations, tous les partis politiques, et tous les citoyens qui viennent en soutien, et ça me paraît important. Et ça me paraît important parce que tout ce qu'il y a, qu'on voit ce qui se passe en Amérique latine, en Afrique, partout à travers le monde, où il y a des gens qui sont déracinés, qui sont enlevés de leur terre. C'est là qu'on voit que l'important, c'est que c'est les gens du secteur qu'il faut qu'ils résistent d'abord. Ça me paraît. Parce que s'ils ne résistent pas, qu'ils partent, voilà, eh bien, les gens extérieurs ne peuvent plus les soutenir. Vous vous rendez compte? On part tous, là, voilà, bah, la lutte, s'il n'y a personne qui y habite, non. C'est pour ça. C'est le noyau, voilà.